souhaiter une très bonne année aux tritons, aux grenouilles, aux chauves-souris et à tous les animaux et à tous les humains qui résistent à Notre-Dame-des-Landes. C'était François de Morlaix.
J'annule le message précédent et je recommence. Je souhaite une très bonne année à tous les militants pour la vie, qu'ils gardent en mémoire le souvenir de Nelson Mandela, qui combattait avec un grand sourire et les deux bras ouverts. C'est Jean-François de l'Isère. Bonne année.
Bonjour Denis, bonjour à tous. C'est Taïev de Paris 19e. Tout d'abord, je souhaite souhaiter une très bonne année à toute l'équipe de CO2, mon amour. Et pour 2014, inciter les auditeurs, auditrices à se débarrasser, je dirais, de ces réflexes de consommateurs de pays riches et d'arrêter d'allumer pour voir si on a tout éteint. Voilà. J'en ai d'autres pour 2015, alors peut-être à bientôt. Au revoir.
CO2, mon amour. Denis Chessou.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission qui prend le temps de ne pas aller trop vite avec Grégory Wallon et Élodie Royer à la technique aujourd'hui. Assisté de Stéphane Combe, c'est Christophe Imbert qui réalise cette émission. Et vous l'avez compris, donc c'était vos messages, donc continuez, n'hésitez pas. Et puis tout au long de l'année, au 01 56 40 40 35, il y en aura d'autres. Une petite humeur, juillet 2009, une des premières actions de l'association basque militante qui œuvrait en faveur de l'environnement, qui œuvre toujours, qui s'appelle Bizi, fut à Biarritz de monter sur le rocher de la Vierge et d'installer un masque et un tuba à la Vierge et au petit Jésus. Bon. Des banderoles sortent à Caen, Biarritz sous les eaux. Un tract distribué aux passants alerte sur les conséquences du changement climatique et parle du sommet de Copenhague qui doit se tenir 6 mois plus tard. Le message est bien reçu, les réactions sont largement positives. Qu'a fait le maire de Biarritz pendant ses 4 ans et demi pour lutter contre les causes du changement climatique? A-t-il surfé sur la vague de la prévention? Eh bien, il a combattu la mise en place de toute alternative aux tout-voitures, première source d'émissions de gaz à effet de serre sur l'agglomération. Même s'il y a des pistes cyclables, il faut quand même bien le dire. Mais heureusement, pour qu'elles ne prennent pas l'eau, les machines à sous du casino furent remontées au premier étage. Alors, je sais bien, l'argent a beau être très souvent liquide, parfois il faut le mettre au chèque. Ainsi, on ne pourra plus dire qu'on ne fait rien pour lutter contre les effets du réchauffement climatique. Du côté du Japon, ça recrute à tour de bras. Le pôle emploi du pays du soleil radieux turbine à plein régime. De longues files de chômeurs, SDF, losers, criblés de dettes, handicapés physiques et mentaux, se bousculent devant les bureaux de recrutement. Une bousculade d'ailleurs toute nippone, c'est-à-dire sage, résignée, qui n'a rien à voir avec notre joyeuse cohue gauloise, car la discipline est assurée à distance, respectueuse et réglementaire exigée par les samouraïs musculeux au visage fermé des mafieux yakuza. On embauche tous ceux qui le veulent et qui ne peuvent pas faire autrement pour aller nettoyer la zone sensible et ravagée de Fukushima. Alors des 6 dollars de l'heure qu'ils vont toucher, les sans-abri ne voient pas la couleur vraiment car leur paye est largement ponctionnée à la source par l'employeur pour couvrir les frais de nourriture et d'hébergement dans des dortoirs délabrés. Ça c'est ce que nous rapporte cette semaine Le Parisien et l'agence Reuters. Et je vous rassure, ces travailleurs ne disposent d'aucun appareil pour mesurer l'exposition aux radiations. Pas de mesure, pas de danger. Condamnés de la terre qu'ils sont à court terme par leur mode de vie déconnecté des réalités d'une vie japonaise normale, ces glorieux kamikazes vont donc enfin pouvoir se rendre utiles à la société. Ils en seront remerciés dans quelques mois, quelques années, par leur nom gravé sur la pierre froide du sanctuaire des pauvres irradiés par obligation sociale. Ainsi, la compagnie TEPCO, dans sa grande détresse, réalise le rêve inabouti des pires nationaux socialistes à la triste figure, proprement éliminer les sous-hommes, les bons à rien, les mal foutus, les bouches inutiles, les moutons noirs, j'en passais des meilleurs, en les transformant en héroïques liquidateurs que n'auraient pas renié les gestionnaires de l'après de Tchernobyl. Alors c'est cynique, c'est habile, on croirait lire un manga et du pragmatisme pur que l'on voudrait voir à jamais banni d'une société dite humaine. « Voilà, donc pour ces humeurs qui devraient aussi inspirer notre invité, donc Bruno Latour. Bruno Latour, vous êtes fils de viticulteur de Beaune, ce qui vous a permis d'avoir un lien entre l'homme et la planète depuis très très longtemps. C'est peut-être là que vous l'avez trouvé. Vous êtes un des sociologues français les plus connus à l'étranger. Vous avez reçu la plus haute distinction en sciences humaines, le prix Holberg en 2013. Vous êtes donc spécialiste de philosophie, sociologie des sciences. Vous êtes vraiment une vedette des campus américains, je le disais, traduit dans une trentaine de langues. Vous avez un maître que vous connaissez aussi, qui est Michel Serres, chercheur donc depuis très longtemps. Vous avez été à l'école des mines, aujourd'hui professeur à Sciences Po. Vous avez été aussi le seul intellectuel français à avoir obtenu la chaire Spinoza à l'université d'Amsterdam. Vous avez sorti en 2012 aux éditions de la Découverte Enquête sur les modes d'existence, une anthropologie des modernes. Vous mettez à nu les contradictions de la modernité. Vous travaillez beaucoup sur le rapport entre la nature et la culture. Et peut-être j'ai envie de poser cette première question, c'est en fait pourquoi les intellectuels se sont assez peu emparés de ces problèmes, on va dire, environnementaux, écologiques, sauf certains qui sont contre, comme Bruckner, comme Luc Ferry, etc.
Les intellectuels n'ont aucun privilège pour comprendre ce qui se passe autour d'eux. La plupart du temps, c'est très compliqué de savoir ce qui se passe autour de nous. Il faut enquêter.
Oui.
Et le monde intellectuel lui-même n'est pas forcément adapté à aux enquêtes.
Mm-hmm.
Donc la différence entre les intellectuels et les enquêteurs est assez importante.
Mais alors vous-même, pourquoi vous y êtes intéressé à cela ?
À moi, c'est à cause du travail que j'ai fait d'enquête sur les sciences. Donc c'est la pratique des sciences qui m'a amené à cet intérêt, puisque en particulier l'ensemble de toutes les questions écologiques passent sinon toujours par les sciences, en tout cas toujours par les experts. Donc la recompréhension des sciences et de leur rôle, de la confiance qu'on peut leur faire, des institutions dont elles dépendent, c'est ça qui m'a amené aux questions d'écologie. Disons. Mais je ne suis pas un penseur de l'écologie, de la modernité plutôt.
Voilà, exactement. Mais ça veut dire qu'effectivement, depuis une vingtaine d'années, on se rend compte que tous les sujets scientifiques sont sujets à controverse, que l'on prenne le nucléaire, le gaz de schiste, les OGM, le thon, les nanoparticules, où le débat public est passé complètement à la trappe. Et on a coutume de penser, de dire que seuls les experts sont capables de clore le débat.
Non, ça, je crois qu'on est sorti de cette idée-là. On essaie justement de faire des débats, y compris sur les nanoparticules.
Ouais.
Simplement, les habitudes démocratiques ne sont pas partagées non plus par les militants, pas plus que par les scientifiques et les fonctionnaires.
Ouais.
Donc le problème, c'est qu'on essaie de construire une toute autre façon de clore les controverses que l'expertise, mais il faut accepter la démocratie, et ça, c'est assez compliqué. C'est compliqué pour les militants de gauche ou de droite, c'est compliqué pour les scientifiques qui ne sont pas habitués à discuter, et c'est évidemment très compliqué pour les fonctionnaires qui sont habitués à représenter l'intérêt public sans épreuve. Donc, c'est pas du tout, je crois, on est complètement sorti de l'idée de clôture par les experts. Et c'est d'ailleurs ça qui amène ces controverses, et souvent d'ailleurs pas des controverses scientifiques. La controverse sur le climat, il n'y a pas de controverse scientifique sur le climat. Mais il y a le fait que les conséquences...
Il y en a eu.
Il y a des fausses controverses,
oui,
disons,
d'accord,
des agitations. Mais pour des raisons d'ailleurs parfaitement compréhensibles, puisque si on croit et si on a confiance dans les décisions et les sciences du climat, on est obligé de faire des tas de transformations. Donc on préfère ne pas faire de transformations, et donc on nie aussi la science qui est en amont, disons. Mais tout ça, c'est simplement que la science s'intéresse à toutes les choses qui nous intéressent. Donc elle est coextensive à la politique. C'est tout ça que ça veut dire. C'est simplement que, en fait, c'est une situation assez normale. Mais avant l'écologie, on s'en apercevait pas trop, disons.
Ouais.
À chaque fois que la science porte sur toutes les conditions d'existence des humains, bah, évidemment, on a tous les problèmes de disputes habituel aux humains sur l'ensemble de nos conditions d'existence.
Alors on va poursuivre et donc élargir bien sûr ce sujet avec vous. Moi ce que je vous propose c'est de rejoindre un homme qui s'appelle, parce que là on est vraiment dans l'actualité, même si ça n'a pas été la grosse actualité de la semaine, mais c'est pas grave, c'est aussi le but dans cette émission de prendre les chemins de traverse. On va rejoindre un homme qui s'appelle Frédéric Amiel et qui est chargé de campagne forêt chez Greenpeace France, donc il s'occupe du bois, des campagnes et des forêts, pardonnez-moi. Et donc on vous a retrouvé le 8 janvier dernier, Frédéric Amiel, à Caen. Donc, que faisiez-vous avec Greenpeace ?
Donc, le 8 janvier au matin, une quinzaine d'activistes de Greenpeace sont rentrés sur le port de Caen pour dénoncer la présence de bois illégal. Donc, l'idée, c'était de saisir ce bois, puisque le ministère de l'Agriculture et des Forêts, qui avait été averti à plusieurs reprises, n'a rien fait contre cette cargaison. On a réussi à charger une grume de bois sur un camion, et puis on a voulu sortir du port pour l'emmener au ministre Stéphane Le Foll à Paris. On a été bloqué par les dockers, mais on a réussi à faire constater par les douanes et par la gendarmerie la situation, ce qui est déjà une très bonne chose.
Alors c'est très intéressant parce que là vous êtes évidemment, vous avez un sigle, brigade de vérification du bois de Greenpeace. C'est quand même de rappeler qu'il y a un règlement aujourd'hui européen sur le bois dans l'Union européenne. Et si vous avez fait ça, c'est parce qu'il vous semble qu'il n'est pas forcément assez appliqué.
Tout à fait, c'est-à-dire que depuis le 3 mars 2013, il y a enfin un règlement en Europe obtenu de haute lutte par les ONG qui dit spécifiquement qu'il est interdit de vendre du bois illégal. Aussi absurde que ça puisse paraître, ça n'existait pas avant. Mais maintenant qu'on a ce règlement, il faut le faire appliquer et on demande à Stéphane Le Foll, au ministère de l'Agriculture, qui en est responsable, de saisir les cargaisons de bois illégal et de mener des enquêtes sur les cargaisons qui lui sont signalées.
Qu'est-ce que l'on appelle du bois illégal ?
Alors le bois illégal, il peut être illégal pour deux raisons. Soit qu'il ne possède pas les autorisations douanières, soit qu'il les possède mais qu'il ait été récolté illégalement dans le pays d'origine. C'est le cas du bois qu'on a saisi mercredi dernier.
Qui vient du Congo ?
C'est du bois qui vient du Congo et en République démocratique du Congo. Il a été coupé en ne respectant pas le code forestier congolais. Ça peut être jusqu'à 80% du bois qui est récolté illégalement dans certains pays. Donc il est très important pour le bien-être des forêts de ces pays-là, d'en interdire la commercialisation en France.
Alors il y a les gens donc, qui coupent ce bois, puis il y a aussi les importateurs de bois qui normalement doivent s'assurer par tous les moyens de la légalité de ce bois.
Exactement, c'est la responsabilité qu'ils ont avec le nouveau règlement bois. Ils doivent mettre en œuvre tous les moyens pour vérifier la légalité du bois et éviter de le mettre en marché. Aujourd'hui en France, on est en ce moment à l'Assemblée nationale en train de discuter la loi qui doit retranscrire le règlement européen, qui doit fixer les sanctions. Pour nous, ces sanctions, pour l'instant, sont insuffisantes. On demande aussi à Stéphane Le Foll de mettre en place des sanctions très strictes pour vraiment dissuader les importateurs d'importer du bois illégal en Europe.
Quel est en fait le pari de cette réglementation européenne ?
Voilà, alors le pari du règlement européen, c'est de faire peser la responsabilité sur les importateurs. C'est-à-dire qu'eux, ils ont une responsabilité principale, c'est de faire une enquête sur la légalité. Et le pari, c'est que cette pression indirecte mise via les importateurs, va obliger les États producteurs à renforcer leur législation, les récoltants de bois à mieux respecter la loi et les États européens à mieux contrôler leurs frontières.
Qu'est-ce que ça représente le bois illégal en pourcentage en circulation en Europe à peu près ?
En Europe, c'est 20 à 40% du bois qui est commercialisé en Europe qui serait d'origine illégale. C'est important, c'est plus que la moyenne mondiale qui est entre 15 et 30%. Et surtout, la France est un principal importateur de bois en Europe en provenance du bassin du Congo. Et là, on a des chiffres qui s'envolent complètement, on est au-dessus de 50% dans la plupart des pays de la zone.
Et quelles sont les conséquences environnementales ?
Les conséquences environnementales directes, c'est la déforestation. Les conséquences sociales directes, c'est que du bois illégal souvent ne respecte pas le droit des communautés forestières. Et puis surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que contrôler le secteur forestier et donc maîtriser la déforestation est extrêmement difficile tant qu'on aura cette quantité-là de bois illégal. Par définition, le bois illégal, ça ne se contrôle pas, donc on veut mettre en œuvre toutes les mesures qu'on veut pour lutter contre la déforestation. Tant que 40% du secteur échappe à la législation, ce sera perdu.
Merci Frédéric Amiel, donc de Greenpeace France, chargé de campagne forêt. On rappelle que le bassin du Congo, c'est un peu plus grand que... C'est plus de trois fois la France quand même en superficie. La France possède aussi quelques bois, me semble-t-il. On n'a pas forcément besoin de bois exotiques, soit pour nos parquets, soit pour nos huisseries, nos fenêtres, etc. Et que peut faire le consommateur que nous sommes ? C'est de veiller à cela chez l'acheteur, c'est-à-dire avec un label, entre autres CFC. Il y en a quelques autres aussi, mais enfin, voilà. Voilà ce que l'on peut faire. Peut-être réaction de votre part, Bruno Latour.
Ouais, c'est un cas typique où sans les militants, et c'est impossible de se représenter ce genre de trafic. Donc c'est exactement les problèmes qui nous intéressent. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout des problèmes d'expertise. C'est que ce sont des sujets qui sont à la fois captés par les scientifiques et captés par les militants, sans lesquels ni les scientifiques ni les militants, le public ou les gens les ordinaires consommateurs ne seraient sensibles à ces problèmes. Les problèmes politiques, on a toujours besoin de militants ou de scientifiques ou de fonctionnaires pour arriver à les rendre sensibles au public. Il n'y a rien qui les met dans la conscience des gens automatiquement. Il faut forcément un travail. Le travail des militants, le travail des scientifiques, le travail des fonctionnaires, le travail des médias et des journalistes. C'est la politique tout à fait ordinaire.
Mmh. Et on verra aussi quel est le rôle de la culture et des arts dans ce domaine pour sensibiliser donc les gens que nous sommes, parce que ça, vous y avez beaucoup, beaucoup travaillé. Ce que je vous propose, c'est de revenir, tenez un petit répondeur, 01 56 40 40 35.
Oui, bonjour, CO2, mon amour. Salut, Denis. Bon, c'est le début de l'année, tu nous as fait écouter une pastille avec des chants d'oiseaux. Moi, j'ai autre chose, j'ai des photos. J'habite à côté de Nîmes. Je m'appelle Antoine, et j'ai pris une photo le 30 octobre d'une fleur de cerisier, le 4 décembre un papillon bicolore, et le 30 décembre un pissenlit en graines. C'est des petites fleurs là, comme dans le Larousse. Ouais, pas mal hein, pour l'année. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, et pour la l'année nouvelle, j'ai reçu un amaryllis. Mais celui-là, je ne peux pas l'emporter sur ma petite reine. Mais j'embrasse les auditeurs, j'embrasse l'équipe. Allez, ciao, ciao.
Et le premier disque choisi par Thierry Dupin, on l'aime bien, oui, bien sûr, c'est M. Faites-moi souffrir. Point d'interrogation. Bel après-midi sur France Inter.
C'est la souffrance qui m'aide à me dépasser. Tirez-moi les cheveux, faites-moi pleurer. Je vous en prie, ne me parlez plus. Faut m'enterrer, me laisser tenir. Faites-moi souffrir. C'est pas si dur, ce n'est pas pire que de parler pour ne rien dire. Ça m'inspire. Ça m'inspire. Mettez-moi des bêtes dans les chaussures. Laissez-moi dormir sur des surfaces dures. Il faut que je souffre, alors allez-y. Mais je vous prie d'être mes pires ennemis. Faites-moi souffrir. C'est pas si dur, ce n'est pas pire que de parler pour ne rien dire. Ça m'inspire. Ça m'inspire. Vient de m'échapper. Cette fois, je peux pas la rater. Écrase ta clope sur moi. Fais-moi créer, fais-moi crier. Je n'ai pas d'idée, je n'ai pas d'idée. Soyez sans pitié. Faites-moi.
Choc, très tendance et pas cher, durable au moins une fois par semaine, c'est CO2 Mon Amour avec Denis Chessot.
Mais pas tout seul, non, non, une jeune femme aussi nous a rejoint qui s'appelle Pascale Derme et qui va nous parler dans quelques instants aussi d'un ouvrage qui s'appelle « Ils l'ont fait et ça marche et ça nous fait du bien ». Bruno Latour, donc toujours bien sûr avec nous cet après-midi, vous dites qu'il faut passer, puisque je rappelle que vous avez donc écrit « Enquête sur les modes d'existence, une anthropologie des modernes » aux éditions de La Découverte, donc vous mettez à nu les contradictions de la modernité et vous dites qu'il faut passer de l'idée de moderniser à celle d'écologiser.
Oui, j'ai une façon de simplifier en une phrase. Un argument, moderniser, c'était laisser derrière nous toute une série de choses du passé, en particulier les questions de la campagne, de la terre, etc. Écologiser, c'est récupérer l'ensemble des questions qui nous reviennent sur la tête, en quelque sorte. Donc la modernisation a acquis un nombre fantastique d'avantages, en particulier du côté de l'émancipation. Mais à pousser derrière elle ou externaliser, comme disent les économistes, ou mis de côté, disons, tout un ensemble de choses qui reviennent. Et le mot écologiser ne signifie pas qu'on va s'intéresser à la nature particulièrement, mais qu'on va s'intéresser à tout ce qui a été mis de côté. Donc c'est une façon de simplifier l'opposition, mais de dire la modernisation ne peut pas continuer. Et donc, de toute façon, on n'a qu'une terre, donc on ne peut pas continuer la modernisation. Par contre, l'écologisation, c'est reposer toutes les questions qui ont été posées pendant l'époque des Lumières, qui ont été posées par la civilisation, disons, occidentale au sens large, mais complètement refaite. Donc c'est une situation à la fois révolutionnaire et en même temps une révolution de tous les détails de l'existence. C'est un peu la chose, si j'ai bien compris le livre de notre autre invité, Pascal,
C'est-à-dire le fait que c'est dans les détails de l'existence que les aspects les plus révolutionnaires se trouvent. Et là, il y a quelque chose qui est assez nouveau, en particulier nouveau pour les conceptions usuelles de ce que c'est que la politique.
Ça veut dire que aussi on doit avoir un autre regard sur l'économie, qui est un instrument de mesure au départ, mais ça sous-tend cela, donc cette écologisation.
Il y a une économie de l'écologie, évidemment, mais qui est une simple extension des méthodes et des pratiques de l'économie aux questions, disons, de nature, comme la question du calcul des avantages rendus par les écosystèmes, des choses comme ça. Et puis il y a une version plus radicale, qui est, je pense, celle qui intéresse le plus de gens, qui est l'économie est arrivée à dépolitiser toute une partie des questions d'existence. L'écologisation, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme, demande une économie qui, au contraire, repolitise l'ensemble des questions de choix d'existence. Donc l'obligation de trouver des formes démocratiques qui est, encore une fois, très compliqué à mettre en place, parce qu'on n'a pas l'habitude de développer des méthodes démocratiques pour des choses comme l'habillement, la nourriture, l'ensemble de notre situation de transport, la question du climat, qui est un truc un peu bizarre de mettre en politique et qui se trouve mise en politique. Et donc on se trouve affronté précisément à des questions qu'on avait un peu laissées au marché, disons, aux organisations de marché, et qui se retrouvent maintenant au centre des assemblées politiques. Alors, ces assemblées, elles existent. Elles sont bricolées, de mille façons, en pointillés. Pour le climat, par exemple, il y a une assemblée politico-scientifique très importante qui s'appelle le GIEC,
oui.
Qui est une espèce de géopolitique mondiale des questions climatiques. Et pour toutes les questions, dont celle du bois dont vous parliez, on voit bien qu'il y a une espèce de début d'organisation de démocratie avec à la fois l'Europe, à la fois les militants, à la fois les scientifiques qui travaillent sur le Congo, etc. etc. Mais toutes ces petites assemblées bricolées, disons, depuis une quarantaine d'années, et bricolées très largement par l'initiative des militants, n'a pas reçu sa représentation officielle. On continue à faire de la politique, disons, classique.
Oui.
C'est-à-dire des humains en voie de modernisation qui attendent le progrès et une augmentation du PNB.
Voilà. Donc c'est ça. Oui, bien sûr. Non, mais on est toujours sur ce système-là. Et d'ailleurs, vous rêviez, entre guillemets, avec un certain humour, vous plaidiez pour un Sénat où seraient représentés les oiseaux migrateurs et les zones inondables. C'est-à-dire qu'en fait, vous aimeriez voir une seule table autour de laquelle se négocient les humains et puis tout ce qui est non humain. Enfin, dont la biodiversité. Quoi.
C'était écrit de façon amusante, mais c'était un point sérieux.
Ben, je sais bien.
Il y a une assemblée nationale. Là, disons, il y a le Parlement qui représente. Dans le Parlement, il y a l'assemblée qui représenterait les humains. Ça, c'est tout à fait nécessaire. Mais le Sénat représente les territoires.
Oui.
C'est son titre officiel.
Bien sûr.
Mais le problème, c'est qu'un territoire, c'est quoi maintenant? Un territoire, c'est pas d'être la Corrèze, ou bien l'Allier, ou bien la Côte d'Or. Un territoire, c'est l'ensemble des existants avec lesquels nous partageons notre monde. Et donc, c'était pas absurde de dire, au lieu d'avoir un sénateur de la Creuse et un sénateur de l'Allier, ayons un sénateur du bois, pour prendre l'exemple que vous avez donné, des forêts, et un sénateur des déchets, par exemple. Et ça serait tout à fait digne et beaucoup plus intéressant, parce que là, on aurait les vrais territoires, c'est-à-dire la vraie terre sur laquelle nous reposons, et non pas simplement une terre administrative découpée par une carte, disons. Et cette idée, je pense, reste... intéressante.
Oui. Alors Bruno Latour, vous avez aussi une phrase que je trouve intéressante, c'est « il faut organiser le tâtonnement ». C'est-à-dire que l'on voit aujourd'hui un certain nombre de signaux faibles, d'initiatives qui ne font pas peut-être encore sens, on le dit souvent dans cette émission, mais on les montre pour bien montrer qu'il y a quand même un nouveau monde qui est en marche. Il y a aussi un monde qui ne se définit pas que par rapport au PIB. Voilà, donc ce tâtonnement, pour vous, qu'est-ce que c'est? Donc il faut organiser le tâtonnement.
C'est deux choses. D'une part, c'est la prolifération d'initiatives... qui derrière cette espèce de quiétisme et d'état d'apathie sur les questions écologiques dont la France représente en ce moment.
Formidablement, faut le dire. Oui, oui, oui.
Un mauvais état, il y a une multitude de gens qui font tout à fait autre chose et qui au niveau des villes, au niveau des associations et des entreprises, multiplient déjà changent en quelque sorte la situation. Et puis tâtonnement veut dire autre chose, c'est que la question de l'intérêt général sur ces questions de modernisation disons, de deuxième modernisation ou d'écologie, n'est pas connue. Et donc, c'est extraordinairement compliqué de définir l'intérêt général.
Voilà.
Qu'est-ce que c'est qu'un intérêt général étendu aux conditions d'existence pratique, matérielle, territoriale? Qu'est-ce que ça veut dire l'intérêt territorial des forêts, l'intérêt général des forêts, quand on y inclut le Congo ou quand on y inclut l'ensemble, par exemple, des problèmes de transport? Donc, Tâtonnement, ça veut dire que vous avez utilisé négativement le mot pragmatisme tout à l'heure, mais pour moi c'est un mot positif, c'est-à-dire l'aversion pragmatiste au sens originel du terme, c'est-à-dire autour, arriver à construire une vie politique autour des affaires, autour des questions tout à fait pratiques et donc pragmatiques que sont les ingrédients de notre existence commune. Et ça, c'est une forme de tâtonnement auquel on n'est pas habitué parce que ça ne correspond pas à l'État représente la volonté générale.
Voilà.
On ne sait pas ce que c'est que la volonté générale, ni les militants non plus d'ailleurs. Et donc il faut arriver à construire des épreuves et des forums et des lieux de négociation où cette question de l'intérêt général peut s'exprimer. Étant donné que tout le monde parle au nom de l'intérêt général, les militants, les fonctionnaires, les scientifiques. Et parfois les citoyens dans les conversations de bar.
On a une culture que vous connaissez par cœur, Bruno Latour, qui est assez bon, qui relève de la monarchie républicaine, c'est-à-dire que le citoyen tout de suite demande à l'État de faire des choses. C'est-à-dire que on va aller dans des pays anglo-saxons où vous avez des communautarismes qui existent, mais là, il n'y a pas tellement de système intermédiaire, contrairement à d'autres sociétés.
Je ne sais pas si c'est le mot communautarisme, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a une asymétrie entre l'extraordinaire quantité d'instruments dont on dispose en économie. Ou en marketing pour définir, disons, l'intérêt des marchés, et une extraordinaire faiblesse d'instrumentation d'un État qui, paradoxalement, en tout cas en France, est un État faible. C'est un État qui est très peu instrumenté, qui a assez de fonctionnaires capables d'expérimenter. Il a peut-être trop de fonctionnaires dans certains domaines, mais en tout cas, il a très très peu d'habitude d'expérimentation et d'exploration. Donc on a une espèce d'asymétrie entre une capacité de représentation des problèmes qui, du coup, comme on n'a pas de moyen de tâtonner, on dit que c'est l'intérêt général qui définit un aéroport ou pas un aéroport, ou qui dit non, il ne faut pas le faire, mais comment, par quelle épreuve, comment produit-on ces informations et ces connaissances? Finalement, ça n'intéresse pas beaucoup de gens.
Non, mais d'un autre côté, vous êtes un des premiers à dire que si on pouvait réunir un peu mieux des scientifiques, des experts et la population, on pourrait peut-être arriver à une espèce de consensus plus intelligent et aussi le tout, d'ailleurs, qui peut être pas chapeauté par le domaine de l'art, qui vous est extrêmement cher. Mais quand même, on peut trouver des solutions en mettant les gens davantage dans la boucle.
Oui, mais je ne crois pas qu'il faille parler de consensus. Je crois qu'il faut au contraire parler de conflit.
Oui.
C'est-à-dire qu'il faut être au contraire capable d'exprimer. On est en politique normale, elle est simplement étendue.
Donc c'est conflit.
En politique normale, on est en conflit. Oui, et donc il faut pouvoir dire non, ce monde que vous construisez, c'est un monde détestable.
Oui.
Je comprends que vous le défendiez, il n'y a aucune raison, disons, de ne pas le défendre, mais ce n'est pas le mien. Et donc arriver à construire au contraire des formes de partis qui ne sont pas, comme on a essayé de le faire, un parti qui s'occuperait de la nature, qui n'a aucun sens, mais les partis qui définissent les façons d'exister sur cette planète d'une façon, on peut dire, durable ou soutenable. Mm-hmm. Je ne sais pas si c'est la bonne expression. Mais en tout cas, sous une forme de conflit. Or le paradoxe, c'est que quand on aborde des questions d'écologie, on croit que ça va être harmonieux.
Non, ça n'est pas du tout.
Parce qu'on s'intéresse aux questions de nature. Or, tout le monde le découvre dans votre émission aussi bien que partout d'ailleurs. C'est qu'au contraire, plus on parle de questions dites de nature, plus on se dispute. Et c'est très bien, et c'est normal, puisqu'il s'agit de nos conditions d'existence. C'est impossible qu'on soit d'accord. C'est impossible qu'on soit d'accord sur la question de transformer complètement notre existence pour la décarboner, par exemple. Comment voulez-vous qu'on soit d'accord? Par contre, il faut savoir avec qui et contre qui on veut s'allier. Donc, en fait, c'est un retour, ou plutôt une espèce d'accentuation, de développement de la politique, et c'est très bien.
Alors Pascal Derme, vous êtes avec nous, journaliste depuis longtemps, vous intéressez à ces problèmes d'environnement et vous avez fait un ouvrage qui s'appelle « Ils l'ont fait et ça marche, comment l'écologie change déjà la France ». C'est-à-dire que là aussi on parle de ces petits tâtonnements, c'est aux éditions des Petits Matins, alors peut-être déjà l'état d'esprit, parce que c'est vrai que ce bouquin nous fait quand même extrêmement de bien, c'est beaucoup en fait d'initiatives, de collectivités qui ont travaillé sur différents domaines, on verra, elles ne réalisent pas tout, mais en tout cas ils peuvent le faire et ça se fait au niveau local.
Tout à fait. C'est des acteurs qui pratiquent cet art de la controverse dont vous venez de parler. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, tout a déjà commencé. Une fois qu'on a dit ça, ce qui est une idée assez simple, la complexité s'impose à nous. Qu'est-ce qui a vraiment commencé?
Cher Edgar Morin.
Edgar Morin qui nous inspire. Qu'est-ce qui a vraiment commencé? Et la question est complexe parce qu'en effet, on peut parler de fourmillement, on peut parler de tâtonnement. Moi, j'ai voulu aller voir des acteurs. Donc, on est dans des solutions démocratiques, sur des territoires, dans des réalités géographiques et physiques. avec de l'eau, de l'air, du sol, de la terre, et des gens qui ont envie d'aller de l'avant. C'est pas des éco-gestes. On est dans des solutions démocratiques, c'est des équipes d'élus, c'est des maires, ça va des communes de 1000 habitants à des grandes villes comme Strasbourg ou Lyon. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte en allant enquêter sur le terrain, en allant voir, serrer les paluches, voir des bouilles de ces acteurs du changement qui tâtonnent mais qui ont des résultats, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'on n'est plus uniquement dans le registre du rêve. On est dans le registre du besoin. On est dans le registre du besoin, besoin de se loger, besoin de se nourrir sainement, besoin d'économiser des ressources. On est dans cette innovation sociale qui est mue par le besoin. Et l'innovation, c'est pas forcément la bonne idée. C'est une bonne idée au bon moment, à un bon endroit. Et ces bons endroits et ces bons moments, moi, j'ai voulu aller les voir, mettre les mains sous le capot et démonter la mécanique de ce changement. Combien ça coûte? Combien ça rapporte? Quelle loi? Quelle date? C'est-à-dire un petit peu mettre au grand air de rêve, mettre des kilowattheures, mettre des mètres carrés, mettre des mètres cubes. C'est-à-dire allier ce rêve, ces envies, et ce qui allume l'étincelle, la petite étincelle, c'est souvent des hommes, effectivement, des minorités actives, des équipes qui pollinisent ensuite, et l'importance du réseau est important. Dans mon livre, je montre que si c'est au début des initiatives qui mettent du temps, le temps est important, on pourrait l'écrire TEMPS, ça prend 10 ans à une collectivité de s'engager dans la transition.
Alors prenons par exemple le Losangouel. Nous sommes dans le Pas-de-Calais et donc là il y a un maire assez extraordinaire. Moi, j'ai fait un reportage, je vais retourner aussi un jour, qui s'appelle Jean-François Caron. Et au départ, je veux dire que là vous parliez de terre, on est même dans le terril. Vous voyez, donc c'est pas simple. C'est une zone absolument sinistrée au départ par l'industrialisation. Plus de 7000 habitants. Donc comment ça s'est passé là?
1986, la dernière mine ferme. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que cette ville de 5000 ou 6000 habitants à l'époque peut devenir? Comment se rêver un avenir meilleur? Faut-il fermer et détruire tous les terrils, toutes les bases minières? À Losangouel, on a dit non.
Pardonnez-moi, Jean-François Caron, une très belle phrase. Il dit « on ne construit jamais sur du renoncement ».
Voilà, c'est l'idée de résilience. On a dit non, on a fait en sorte que les habitants deviennent des habitants acteurs du changement. Donc dès les premiers plans locaux d'urbanisme, dès 1995, on a créé des ateliers citoyens pour que les habitants donnent leur point de vue, non seulement sur l'avenir de leur ville, mais sur comment gérer les déchets, comment gérer l'eau, comment devenir un emblème. Et au final, on s'aperçoit dans cette ville que la mine 11-19 est devenue un emblème du développement durable, un cluster avec des entreprises, de la recherche, des habitants. Et là aussi, le changement passe à la fois par des micro-initiatives, des personnes très émouvantes qui construisent, qui tricotent une étiquette et qui le mettent autour du terril. Oui. Et ça va, on fait le grand écart de ces micro-associations.
Ils ont fait une écharpe en couleur qui était extraordinaire.
Autour du terril, le plus haut d'Europe. Et ça devient un patrimoine emblématique reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO en juin 2012. Donc on fait le grand écart entre des micro-actions qui sont très importantes et l'UNESCO, des politiques plus publiques.
Alors ce que je vous propose justement, parce que dans votre ouvrage donc, on peut aller à Strasbourg, mais là on va aller à Bordeaux. On va rejoindre donc un garçon qui s'appelle Jean-Marc Gancy, qui est le directeur du développement durable d'un projet qui s'appelle le projet Darwin. Et donc c'est un lieu qui est bien identifié à Bordeaux, c'est ouvert sur la ville et on va comprendre ce que vous faites, Jean-Marc Gancy. Jean-Marc Gancy, vous êtes alors le directeur, on va dire, développement durable de ce projet Darwin. C'est quoi ce projet? Racontez-nous.
C'est un projet de lieu alternatif, où se sont effectivement installés beaucoup d'acteurs associatifs et entrepreneuriaux qui ont pour vocation de changer un peu le modèle dans lequel nous sommes, de faire plus de coopération et d'essayer d'être un peu moins nocif à l'environnement dans leur fonctionnement au quotidien.
Alors au départ, donc, c'était une ancienne friche de caserne qui appartenait à la mairie, il y avait 34 hectares, et là, 80 entreprises ont élu domicile sur 2 hectares. Alors ce sont des entreprises qui vont à peu près de 5 à 60 personnes. Donc c'est une véritable pépinière d'entreprises?
On peut le dire, il y a exactement 80 acteurs aujourd'hui qui sont présents sur le site. Ce sont à la fois des entreprises mais également des associations qui travaillent ensemble sur ce projet. Le lieu appartenait à l'État, puisque l'armée l'occupait, et c'est la communauté urbaine qui nous l'a cédé, ou du moins nous a cédé une partie de cette ancienne caserne pour rénover ces lieux et en faire effectivement un lieu emblématique à la fois de la coopération économique et de la transition écologique.
Alors c'est reconnu aujourd'hui comme une vitrine européenne et vous avez donc adhéré à une charte d'économie verte et créative. Alors cette charte, vous l'avez, j'imagine, rédigée. Qu'est-ce qu'il y a dedans?
Écoutez, c'est plus que ça encore. C'est un engagement contractuel des acteurs de ce lieu d'être solidaires entre eux et de faire en sorte que leur activité soit la moins impactante possible pour l'environnement. Donc ils s'engagent à agir collectivement au quotidien, en plus de la conduite de leur activité propre, à ce que ce lieu soit un lieu différent dans ses modalités de fonctionnement.
Jean-Marc Gancy, quelques exemples s'il vous plaît.
Typiquement, nous avons des groupes de travail sur un certain nombre de sujets, la façon dont nous gérons nos déchets, la façon dont nous nous déplaçons pour nous rendre au travail. Nous avons également une ferme urbaine, par exemple, sur le lieu où nous produisons quelques légumes et des poulets qui sont ensuite collectivement répartis entre les membres de ce lieu, qui effectivement mettent la main à la pâte et imaginent un futur un peu plus souhaitable.
Quand vous parlez de déplacement, c'est intéressant parce que vous avez même un réparateur de vélo qui vient sur place.
Il est même installé sur le lieu, il répare la flotte de véhicules partagés que nous avons, des vélos, mais également des véhicules électriques. Et puis nous avons mené une étude de diagnostic sur les déplacements des 250 personnes qui travaillent sur le lieu et encouragé les modes de déplacement doux. Aujourd'hui, plus de la moitié des gens viennent en vélo.
D'accord. Et sinon qu'au voiturage aussi, vous avez mis ça au point ?
Oui, c'est plus compliqué parce que effectivement, chacun a ses propres contraintes d'agenda. Ce sont, je vous le rappelle, beaucoup d'entrepreneurs qui sont sur le lieu avec des urgences à traiter qui sont difficilement anticipables. En revanche, nous avons un certain nombre d'actions qui permettent de partager des flottes de véhicules et des véhicules électriques ou des vélos qui sont à disposition des locataires du lieu.
Alors aujourd'hui, donc récupération de l'eau pluviale, comme ça se fait quand même très souvent, des toits solaires. Vous avez adhéré donc à Enercop aussi pour distribuer votre électricité et puis une mutualisation de salles de réunion.
Oui, effectivement, au cœur de notre modèle, il y a la mutualisation de tout ce qui peut l'être, des services, des salles de réunion, des équipements, je parlais des flottes de vélos. On essaye de faire en sorte de partager un maximum de choses. Alors, c'est économiquement raisonnable, mais c'est également écologiquement souhaitable. Donc, on essaye de faire en sorte d'économiser des ressources. Et quelle qu'elle soit.
Quelle est la différence entre des loueurs, on va dire, de mètres carrés et ce que vous faites vous ? En fait, vous signez un bail vert, donc c'est quoi la différence fondamentale ?
Alors la différence fondamentale, c'est que ici, toutes les entreprises se mélangent. Il n'y a pas de cloison. On a des grands open space où les salariés des entreprises, si elles sont juridiquement indépendantes, partagent les mêmes espaces et doivent cohabiter en bonne intelligence. Ça, c'est une différence fondamentale par rapport à d'autres lieux et ça induit des formes de collaboration, d'échanges qui sont un peu différentes. On est obligé de se respecter et on est incité à conduire des projets en commun. Donc on ne loue pas un espace comme Darwin, comme on pourrait louer celui d'un immeuble tertiaire lambda. Il y a vraiment un projet qui doit être partagé par les dirigeants de ces entreprises, qui doit être communiqué à leurs salariés et qui doit donner envie à tous de participer.
Ce qui veut dire qu'il y a un véritable partage de décisions entre entreprises et puis aussi les riverains, parce que ce lieu est aussi ouvert au public.
Ah oui, c'est très important. C'est un lieu qu'on a voulu ouvert à la ville. On accueille beaucoup d'événements. On accueille également des expositions, des concerts. Le milieu associatif connaît très bien Darwin et il organise des manifestations très nombreuses. Tous les week-ends, des skaters, des familles en balade, des joggers passent sur le lieu et participent aux événements qui s'y trouvent, voire même, utilisent un certain nombre de salles de réunion que nous mettons à leur disposition, gracieusement pour organiser des assemblées générales, par exemple.
Donc c'est une autre façon de vivre ensemble, en tout cas d'en créer. Et puis il y a quand même ce nom quoi, de Darwin, ça c'est aussi merveilleusement symbolique.
Absolument, c'est le premier des écolos, si j'ose dire. Oui. On se réfère tout à fait à sa théorie de l'évolution et puis à la nécessité de s'adapter à un environnement qui change énormément, auquel il va falloir qu'on se conforme si on veut tout simplement survivre, y compris dans le milieu économique. Donc on s'inspire beaucoup de ce grand homme. Et puis c'est un nom qui est très emblématique et qui nous aide aussi en termes de communication.
Alors, au niveau des entreprises, c'est extrêmement varié. Hein. C'est aussi bien des gens qui peuvent être architectes dans la communication, dans l'alimentation, que sais-je.
Il y a un point commun quand même. Ils sont dans deux secteurs d'activité majeurs. L'économie verte, hein, tout ce qui touche effectivement à l'énergie, à l'alimentation, des bureaux d'études, mais également à l'économie créative. Alors derrière ce terme, on pense à des agences de communication, à des gens qui sont dans le numérique, à des designers par exemple. Et ce sont deux secteurs d'activité qui finalement travaillent bien ensemble, peuvent créer des synergies et c'est ce qu'on constate aujourd'hui.
Donc cet écosystème d'entreprise Darwin à Bordeaux, donc est extrait de votre livre. Pascal Derme, ils l'ont fait et ça marche. Petite réaction peut-être Bruno Latour en entendant donc ces jeunes entrepreneurs, parce que là on se rend bien compte que le choix n'est plus forcément entre le refus plus ou moins révolutionnaire des forces du marché et l'acceptation plus ou moins réformiste des forces du marché.
Ben, je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que autrefois beaucoup de politiques étaient centrées sur la notion de système et le système devait être transformé. Et s'il était transformé, il fallait qu'il se transforme totalement.
évidemment, un système lui-même fait d'une série de petites décisions. Donc, il y a, ce qui est très intéressant dans ce genre d'expérience, d'abord, c'est des inventions légales. Il faut toute une législation. Et aussi parce que ça reteste de quoi le système est fait. Donc, ça casse en petits morceaux, ça pixelise, disons, ce qu'on appelle système. Et ça encourage les gens à faire quelque chose. Alors que la notion de système aurait entraîné, au contraire, une espèce de sidération ou d'épuisement. Parce qu'un système, c'est tellement vaste que ça ne peut pas se transformer. Donc, il y a un aspect, effectivement, qui est intéressant entre la vieille tradition d'opposer réformisme et révolution. Il faut être très révolutionnaire pour modifier des détails.
Voilà. Et Pascal Derme aussi.
Je réagis parce qu'en effet, c'est des actions qui sont irrévérencieuses, qui sont légales, mais qui sont parfois un peu pirates. C'est d'ailleurs un propos que me tenait Jean-Marc Gansil quand j'étais à Bordeaux, c'est qu'ils sont, ils sont dans une certaine égalité, mais ils anticipent, ils grignotent, ils vont de l'avant. Fribourg, quand il y a eu le premier éco-quartier
à Brisgau, donc en Allemagne,
à Fribourg, en Brisgau, c'est des squatteurs, c'est des étudiants qui ont squatté des casernes militaires. Mmh. Donc là, on est sur des casernes militaires. Au début, il y a une légalité qu'on pousse un petit peu à bout. Il y a un esprit pirate quand même dans ces initiatives.
Oui, c'est ça. Enfin, c'est toujours la différence entre la légalité et être légitime dans quelque chose. Donc c'est un peu tout ça. Ce que je vous propose, c'est une petite pause musicale et puis on rejoint donc nos invités. Voici Gregory Porter.
I do not agree, this is not for me, no, musical genocide. I will not commit, nor will I submit to musical genocide. This is not for me, I won't let it be, no, musical genocide. Give me a blues song, tell the world what's wrong, and the gospel sang, giving those messages of love. Woe in the soul, man, with your heart in the palm of his hand, singing his stories of love and pain. Oh, I do not agree. I do not agree, this is not for me, no, musical genocide. I will not commit, nor will I submit to musical genocide. This is not for me, I won't let it be, no, musical genocide. Give me a blues song, tell the world what's wrong, and what about the gospel sing, heavenly messages of love. And woe the soul man, with your heart in his hands, singing his stories of love and pain. Whoa, I do not agree. I do not agree. I do not agree. No.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Bonjour tout le monde, je profite de ce moment d'euphorie nationale qu'est la nouvelle année pour faire mes vœux à tous les auditeurs et à toute l'équipe de CO2 Mon Amour. Je vous souhaite à tous une année 2014 mouvementée, pleine de changements, une année pour agir, pour créer, pour penser. Le monde est en ébullition depuis quelque temps. Il se passe plein de choses incroyables. Les peuples se soulèvent contre les dictatures, contre les lobbies, on prend conscience de l'incidence de nos modes de consommation, on se met à résister face aux grands projets inutiles qui sont d'une époque révolue, on se rend bien compte que notre planète est à bout de souffle et qu'il est grand temps d'en prendre soin. Alors CO2 Mon Amour, continuez d'informer sur l'environnement, continuez d'éveiller les consciences, il faut que chacun d'entre nous prenne conscience et agisse. Que 2014 soit l'année du changement et des actions collectives. Soyez heureux et rendez les autres heureux. C'était un message de Laetitia du Tarn.
Eh ben, merci beaucoup Laetitia du Tarn. Et puis belle année aussi de conflits écologiques, hein, on l'a bien compris. C'est vrai que ce n'est pas le consensus, hein, très souvent c'est comme ça que ça se passe. Vous le disiez tout à l'heure, Bruno Latour, donc toujours avec nous, philosophe des sciences, sociologue, s'intéressant à ces problèmes, on l'a bien compris un peu quels étaient vos angles. Je dirais après la guerre froide, maintenant c'est la guerre chaude, pour reprendre l'expression de James Lovelock. On va avoir cette conférence en France en 2015, qu'on appelle le COP21, autrement dit cette conférence internationale national sur le climat. Comment vous sentez les choses et comment vous les voyez avec le recul nécessaire?
Méfiez-vous quand vous annoncez des vœux pour 14 de conflits. En 14 aussi, ils ont eu des conflits.
Oui, mais ça, effectivement.
Vous méfiez.
Non, ça, je me méfie, mais c'était des conflits, j'ai bien dit, écologiques. Hein.
Oui, mais ils ne sont pas forcément plus doux.
Non, ils ne sont pas plus doux. Ils sont pas plus doux. Oui, oui.
Et justement, la COP21 de 2015, qui est un des grands projets de politique française, je crois, et qui mobilise d'ailleurs énormément de gens, en fait. J'étais appris ça récemment, c'est que beaucoup de villes, beaucoup probablement des choses que vous, madame, étudiez dans son livre, se mobilisent pour avoir une influence sur le succès ou l'échec de la COP21, qui est un peu un des moments cruciaux à la fois pour les sciences pour la politique.
Parce qu'il faudrait des engagements concrets.
Ben, c'est un peu un des moments de dernière chance. Ensuite, on passe au plan B. Et le plan B est beaucoup plus grave et beaucoup plus dangereux encore, le géo-engineering. Ça serait très grave d'arriver de nouveau à ne pas prendre de décision. Ceci dit, les irréversibilités sont peut-être déjà entièrement construites, je ne sais pas. Donc la guerre chaude, ça veut simplement dire que, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, les conflits doivent être marqués. On doit savoir pourquoi on se bat. Mmh. Et c'est cette nouvelle géopolitique qui dessine des nouvelles, des zones de dispute et de conflits qu'il faut mettre en avant, et en particulier pour arriver à rendre visible en quoi est-ce que c'est un renouveau de la politique, et pas simplement une extension de sujets un peu sympathiques et charmants, ou moralisés. Pas plus qu'on peut confondre la morale et la politique, il faut la confondre morale et l'écologie. C'est pas une question morale, c'est une question de construction de territoire et de géopolitique au sens le plus classique du terme, sauf que c'est plus géopolitique, c'est ce que j'appelle Gaïa politique, c'est-à-dire c'est des questions de... C'est géo, c'est la Terre, mais c'est la politique de la Terre. Et ça, c'est des sujets qui sont nouveaux, qui sont assez chauds, et que les artistes, d'ailleurs, représentent assez... peut-être plus en avance que les intellectuels et que les hommes.
Alors ça, c'est intéressant, parce que d'ailleurs, vous-même, vous avez signé ou co-signé une pièce de théâtre qui s'appelle Gaïa Global Circus, que vous avez fait jouer à Toulouse, dans le cadre de la Novella, qui était une belle réunion, où là, on a bien compris qu'il fallait mettre vraiment les gens dans la boucle scientifique. Donc ça s'est passé, je crois, au mois d'octobre. Mobilisation des artistes, pour vous, ça, c'est une...
Mobilisation, c'est un peu fort, c'est un côté militariste. Mais c'est que les artistes sont capables de saisir, enfin pas tous, hein, pas plus que les intellectuels, ne sont unanimes sur ces questions, d'ailleurs ça serait embêtant. Il y a une espèce de capacité de se rendre sensible au phénomène actuel, qu'on retrouve beaucoup dans le théâtre, dans le cinéma, dans la danse. C'est quand même intéressant de voir que dans Gravity, le thème général n'est pas une conquête de l'espace, mais une destruction des stations spatiales. Ça signale au niveau hollywoodien, disons, des sensibilités nouvelles. Et puis il y a des artistes beaucoup plus avancés qui travaillent sur ces questions.
Oui. Pascal Derme, alors là, on va revenir aussi donc, avec ces initiatives. Donc, ils l'ont fait et ça marche, donc les artistes d'un côté, mais aussi donc, les maires, les élus de l'autre. Si on prend l'exemple de Strasbourg, que s'est-il passé? Je rappelle donc, cet ouvrage donc, qui a été préfacé par Nicolas Hulot, donc, à Strasbourg.
Alors, à Strasbourg, le besoin de groupes d'habitants de se loger a rencontré le besoin de la ville qui est de se densifier et d'être plus écologique. Et donc, Strasbourg a décidé de soutenir des groupes de co-constructeurs et de soutenir l'habitat participatif, alors même que ce terme n'était pas du tout reconnu dans la loi, n'avait aucune reconnaissance légale ni auprès des banques. Aujourd'hui, ça l'est, puisque la nouvelle loi sur l'urbanisme a reconnu ce terme d'habitat participatif, mais il y a 10 ans, quand Strasbourg a soutenu ses co-constructeurs, personne ne connaissait le terme. Ce que la ville a fait, simplement, c'est d'octroyer 10 terrains à des groupes de personnes qui ont dessiné, imaginé leur futur logement avec des parties individuelles et des parties collectives pour mutualiser, pour se rencontrer, et d'octroyer, de minimiser les prix en fonction du caractère écologique du projet. Et donc, c'est ainsi qu'elle a pu aider ces groupes. Alors, ça s'est passé non sans mal. Il y a eu un premier appel d'offres. Il y avait 17 groupes qui se sont proposés. Et finalement, 5 projets ont été retenus et 3 seulement sont en cours. Ce qui signifie que c'est un des éléments que je souligne dans le livre, que c'est pas parce que tout a commencé que tout est possible. Il y a des difficultés et il y a des freins énormes. Et par exemple, une ville comme l'Île-Saint-Denis, qui est une commune très populaire, qui a mis en...
Alors, 7000 habitants, là, cette fois-ci. Donc, alors c'est très marrant parce que c'est un petit croissant, on va dire, de terre fertile, l'Île-Saint-Denis. C'est à côté de Saint-Denis. Je crois d'ailleurs aussi que le déjeuner sur l'herbe de Manet avait été inspiré dans ces lieux et qui hérite d'une culture tout à fait industrielle. Et là, le maire, Michel Bourgoin, a fait des choses assez étonnantes.
Hein. Absolument. L'équipe est arrivée aux commandes. Ils ont décidé d'engager leur commune populaire sans moyens dans une transition énergétique. C'est ce qu'ils ont fait, en commençant par une politique du bon sens, en nommant une personne qui était chargée de traquer toutes les économies possibles. Ils ont commencé par le stade. Ils ont économisé la moitié ou plus de 70% de l'électricité en fermant les lumières la nuit ou quand il n'y avait pas de match. Et ensuite, ils se sont attaqués à l'eau, à tous les bâtiments publics. Ils ont économisé 500 000 euros grâce à cette politique, ce qui leur a permis, de façon pragmatique, à petits pas et en corrigeant le tir dès qu'ils pouvaient, finalement, d'engager après des fermes solaires. C'était une des premières communes à créer une ferme solaire sur le toit d'une école, puis sur une deuxième école. Donc, de façon, en 10 ans, ils ont pu... On est dans cette écologie de l'action, chère à Edgar Morin, qui est effectivement faite de petits pas et qui sont des actions qui se corrigent et qui rectifient tire de façon assez pragmatique, finalement.
Et c'est ce que vous disiez aussi, Bruno Latour, c'est-à-dire que ça se passe très souvent dans le détail. C'est là que ça se passe. Ça se passe au niveau des collectivités, on l'a bien compris, surtout en ce qui concerne le climat. Mais à chaque fois, c'est dans le détail, sur le transport, sur l'alimentation, que sais-je. C'est là pour vous aussi que le creuset est en train de faire sortir des idées nouvelles.
Bizarrement, l'écologie est anti-système, au sens habituel du terme, être contre le système, mais aussi être contre la notion de système. Son système, un système qui est total et qui est organisé pour être total. Mais en fait, on s'aperçoit ne l'est pas, puisqu'il est fait de multiples petites étapes que des citoyens ordinaires peuvent refaire. Et ça, c'est très intéressant parce qu'évidemment, c'est uniquement si ce travail est fait au niveau micro-politique que les politiques peuvent s'y intéresser. Donc le retard, il y a une espèce de retard dont on parlait tout à l'heure. Ce retard est simplement dû au fait que il n'y a pas assez de citoyens faisant cette politique-là. Et les politiques ne font que la politique des citoyens. Ils n'ont pas d'initiative particulière, pas plus que les intellectuels ne sont en avance sur leur temps, les politiques ne sont en avance sur leur temps, de façon habituelle, disons. Pour qu'ils le soient, il faut qu'ils soient poussés au derrière, si j'ose dire. Oui. Et c'est cette poussée continuelle qui manque, et qui ne manque pas, en fait, quand on regarde un peu, quand on soulève les pierres et qu'on regarde dessous. Mais il y a quand même la pierre, et la pierre est là, et elle pèse.
Merci beaucoup, Bruno Latour. Enquête sur les modes d'existence, une anthropologie des modernes aux éditions de la Découverte. Pascal Derbe, je le rappelle, ils l'ont fait, et ça marche, c'est aux éditions du Petit Matin. Merci à Stéphane Combe, à Christophe Imbert, mon réalisateur, à Patrick Deschamps, à Thierry Dupin, à Anne Gouzon qui nourrit les sites, et puis 01 56 40 40 35, surtout, vous n'hésitez pas.